19h30 ici à Paris. Programmation spéciale donc ce soir sur RFI.
Romain Ozoui.
Oui, ça ressemble à la musique du débat du jour, mais ce n'est pas le débat du jour ce soir. En lieu et place, nous vous proposons deux invités politiques, tous deux candidats aux prochaines élections législatives en France et qui vont donc à notre micro eh bien, se succéder. Dans moins de 15 minutes, Philippe Ballard, député sortant du Rassemblement National dans la deuxième circonscription de l'Oise, candidat à un nouveau mandat, mais tout d'abord, notre premier invité. Et il s'agit de Pierre-Yves Bournazel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes co-président du groupe indépendant et progressiste conseiller de Paris, candidat Horizon, membre de la majorité présidentielle dans la 18e circonscription de Paris. Alors, ce jeudi, le Premier ministre Gabriel Attal a présenté son projet pour les législatives. Il s'en est surtout pris lors de cette présentation de projet au Rassemblement national et au Nouveau Front Populaire, désigné comme, je cite, « les camps du désordre » et du, je cite également, « saut en parachute sans parachute ». Le camp présidentiel et Emmanuel Macron en tête qui n'hésite pas à renvoyer dos à dos, clairement, la gauche et l'extrême droite, tapant même ces derniers jours très fort sur le Nouveau Front Populaire. C'est ma première question, Pierre-Yves Bournazel. Que répondez-vous à ceux qui vous disent eh bien, que le risque d'une telle stratégie, c'est de voir arriver le Rassemblement national au pouvoir en France ?
Je réponds que moi, je combats les idées de l'extrême droite et depuis longtemps, c'est dans mon ADN. Et je ne mets pas sur le même plan des gens de gauche et le Rassemblement national. Mais ça dépend de qui on parle et de quoi on parle.
On parle du Nouveau Front Populaire.
Oui, c'est pour ça. Et je vais y venir tout à l'heure. Moi, je combats l'extrême droite. Et je pense que pour bien combattre l'extrême droite, il ne faut pas être un carburant de l'extrême droite. Or, il existe dans le Front Populaire un certain nombre de députés LFistes, certains, qui sont des carburants depuis 2 ans pour le Rassemblement national, par leur attitude, par leur ambiguïté, par leur violence, par leur virulence. Je pense qu'il y a de la place dans notre démocratie pour un débat serein, un débat apaisé entre des gens de gauche, du centre et de droite, combattant l'extrême droite.
On peut vous répondre que Emmanuel Macron a été d'une certaine manière peut-être un carburant pour l'extrême droite en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale ?
Si tout était parfait, probablement qu'on ne serait pas dans cette situation. Mais quand même, évitons l'extrême droite au pouvoir. Évitons comme Premier ministre M. Bardella, évitons leur politique. Je rappelle que M. Bardella n'a jamais dirigé une collectivité locale, j'allais dire même pas une association, et serait demain Premier ministre de la France dans un contexte géopolitique aussi tendu, dans un contexte de crise financière potentielle, dans un contexte où il faut prendre des décisions dans l'intérêt général. Et de l'autre côté, malheureusement, oui, ça existe, il y a certains députés LFistes qui jouent avec le feu. Et moi, je ne confonds pas des socialistes, je ne confonds pas des écologistes avec des extrêmes. Je les respecte, je peux travailler avec eux. Et j'ai beaucoup, d'ailleurs, dans ma circonscription, d'électeurs de sensibilité de gauche qui m'aiment bien et qui votent pour moi. Donc, il ne s'agit pas de faire de la confusion. Il s'agit simplement de dire, si on veut bien combattre l'extrême droite, si on veut empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir pour mettre en place et éviter qu'elle mette en place ses idées nauséabondes, eh bien, il ne faut pas être en carburant. Et moi, je me battrai contre aussi toute forme d'extrémiste qui sont des carburants pour l'extrême droite.
Alors, votre voix semble dissonante pardon, de celle, par exemple, du président français, Emmanuel Macron, qui, lui, tape très fort, d'abord, contre le Nouveau Front Populaire, accusé dans son programme d'être 4 fois pire, je cite, hein, que le programme de l'extrême droite. Est-ce que le danger, c'est pas de se retrouver face à un affrontement camp présidentiel Rassemblement National qui... Et le fait de perdre ce duel et donc de voir l'extrême droite arriver au pouvoir en France.
Non, je pense que la meilleure solution pour battre l'extrême droite, c'est d'avoir des candidates et des candidats qui ont la tête sur les épaules, qui ont du sang-froid, qui ont une capacité à rassembler pour que demain notre France soit apaisée, notre Assemblée nationale soit apaisée. Pour légiférer, il ne faut pas des extrémistes et des gens excités. Pour légiférer, il faut des hommes et des femmes de dialogue, car il faudra bien construire une majorité au Parlement, une majorité nouvelle, inédite, et probablement qu'il va falloir faire travailler ensemble des sociodémocrates, des écologistes républicains, avec des gens peut-être venus de la droite et l'arc central. Sinon, le pays serait bloqué ou dans les mains du Rassemblement national. Voilà, moi, je parle comme je pense. Je ne réponds pas avec des éléments de langage. Je sais très bien que le combat majeur, c'est contre l'extrême droite et contre ses idées. Mais je redis qu'il faut faire attention à ne pas pousser aussi un certain nombre de candidats ou de députés LFistes qui sont des carburants pour l'extrême droite dans l'ensemble du pays, encore une fois, par leur ambiguïté, leur virulence, parfois leur violence. Ça aussi, c'est inacceptable. Mais je ne confonds pas, encore une fois, des socialistes, des écologistes et d'ailleurs certains lafistes, avec lesquels je ne suis pas d'accord, comme M. Corbière ou Mme Simonnet, bien sûr, avec les extrémistes de droite.
Ça veut dire que dans votre circonscription, s'il y a un second tour entre le Rassemblement National et le Nouveau Front Populaire, vous voterez sans hésitation, si c'était le cas?
Il n'y en a aucun risque.
Si c'était
aucun
le cas.
Risque dans ma circonscription, parce que nous sommes dans une circonscription ouverte et humaniste, et évidemment... Moi, je me battrai toujours contre le Rassemblement National. Jamais aucune voix pour le Rassemblement National. Aucune voix pour le Rassemblement National.
Malgré tout, comment vous observez tout ce qui se trame en France depuis cette annonce de la dissolution de l'Assemblée Nationale, cette campagne électrique, violente, selon certains, cette montée du Rassemblement National, encore le dernier sondage, 34% pour les législatives, loin devant le Nouveau Front Populaire, le camp macroniste dont vous faites partie est annoncé en troisième position. Jusqu'où, justement, ce camp présidentiel est responsable de cette situation? Est-ce que vous pouvez reconnaître que, d'une certaine manière, le président français a précipité le chaos dans le pays?
Écoutez, je ne dirais pas ça. En revanche, ne pas assumer les responsabilités, ça serait injuste. Puisque si nous avons un Rassemblement National si élevé, c'est bien que la droite, puis la gauche qui ont gouverné, puis cette majorité présidentielle, portent forcément tous une part de responsabilité. Il faut le dire. Mais simplement, maintenant, le sujet n'est plus celui du décryptage de la situation politique, c'est celui de ce qu'on va faire du pays. Et moi, je ne veux pas que mon pays soit demain dans les mains d'extrême droite, et je ne veux pas qu'il y ait aussi un chaos. C'est-à-dire une paralysie d'Assemblée nationale. Donc je dis qu'il faut construire une majorité nouvelle et inédite. Et construire cette majorité nouvelle et inédite demande déjà d'avoir un état d'esprit, celui du dialogue, et d'éviter un maximum de députés extrémistes qui viendront là vendre leur idéologie, chercheront la confrontation, parce qu'un extrémisme en nourrit un autre. Et donc il va bien falloir trouver des passerelles et des ponts pour qu'un certain nombre de députés élus, je veux en faire partie, soient capables de travailler avec les autres dans l'intérêt du pays. Est-ce qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord sur des questions essentielles comme l'éducation, comme la défense nationale alors que nous avons des périls géopolitiques devant nous? Est-ce qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord sur la justice en France? Est-ce qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord sur la transformation écologique qui est le sujet numéro un du XXIe siècle?
Se mettre d'accord donc avec le Nouveau Front Populaire, puisqu'on a bien compris, pas avec l'extrême droite, en cas de majorité...
Pas,
relative,
avec,
à
pas avec l'extrême droite et par ailleurs,
avec
pas,
le
même si je
ne mets
pas sur le même plan, pas avec un certain nombre de députés LFistes qui incontestablement ont un problème avec des valeurs républicaines, démocratiques. On le voit malheureusement par leur prise de position sur un certain nombre de sujets.
La réforme en cours qui cristallise une partie de l'opposition, c'est la réforme de l'assurance chômage. Le Premier ministre Gabriel Attal a dit qu'un décret pourrait être pris d'ici au 1er juillet, donc entre les deux tours. Pour la mise en place de cette réforme, est-ce que c'est le bon tempo?
Laissons les Français écouter les candidates et les candidats, laissons les Français décider, ayons un cap clair, c'est-à-dire en capacité d'être un pôle de résistance à la montée du Rassemblement National et de ses alliés, empêchons cette majorité dangereuse pour l'avenir du pays, pour nos libertés, faut-il encore en parler? On n'en parle pas beaucoup dans cette campagne. Mais partout, les amis de M. Bardella sont en responsabilité, partout les libertés reculent. Je pense notamment à la Hongrie de M. Orban, où sont attaqués les droits des femmes, le droit des personnes LGBT, homosexuelles. Je voudrais parler aussi, évidemment, de l'Italie. On pourrait parler de la Slovaquie. On a vu dans le passé, il a été battu, mais le président brésilien, M. Bolsonaro, qui s'était attaqué aussi aux libertés fondamentales. Donc on ne joue pas avec la démocratie, c'est trop grave. Donc le combat doit être total vis-à-vis du Rassemblement National, mais construisons avec un certain nombre d'acteurs politiques les conditions d'une majorité nouvelle et inédite au service du pays, qui puisse aller de la social-démocratie, de l'écologie responsable, à la droite modérée et républicaine, en passant par toutes les forces centrales de la majorité sortante présidentielle, qui sera de toute façon renouvelé, quoi qu'il arrive.
Ce jeudi, je le disais, Gabriel Attal a donc présenté le programme des législatives et avant sa prise de parole, il a fait projeter un clip de campagne dans lequel on ne voit aucune image d'Emmanuel Macron. C'est pourtant votre chef, le président de la République. Est-ce qu'il est devenu une sorte de patate chaude? Est-ce que moins on le voit, plus finalement vous pouvez espérer eh bien récolter un bon score aux législatives? Et de cette question, je vais vous poser la question, est-ce qu'il peut encore, Emmanuel Macron, relancer son quinquennat?
Non mais là, c'est une élection législative, c'est-à-dire quelle majorité donne-t-on au Parlement pour conduire et diriger la politique de la nation? Et moi, je suis très respectueux des institutions et je pense que le président de la République doit être au-dessus de cette campagne législative parce que sa mission, ce n'est pas de conduire...
Donc il parle trop?
ce n'est pas de conduire et de diriger la politique de la nation, c'est d'être l'homme de la nation pour rassembler les Français. Et les Français vont décider librement d'une majorité. Et moi, je souhaite que cette majorité soit nouvelle et inédite et qu'elle rassemble toutes celles et tous ceux qui défendent des valeurs républicaines et démocratiques et qui combattent le Rassemblement national. Donc ça peut prendre en compte des sociodémocrates, des écologistes républicains, des gens de droite modérée qui ont refusé l'alliance avec le RN, et évidemment les forces centrales du Modem, d'Horizon et de Renaissance. Voilà ce que me semble bon pour le pays.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans votre camp, il y a une ambiguïté, malgré tout, qui persiste ? Vous n'en faites pas part.
Moi, je ne
vous
suis pas ambigu, je dis ce
oui,
que
vous
je
êtes
pense.
Ambigu, mais est-ce que c'est le cas de tout le camp présidentiel ? Est-ce que ce combat,
parce
que
clairement,
vous ne mettez pas face à face extrême-gauche, extrême-droite, mais ce n'est pas le cas de tous les membres du camp présidentiel, de tous les membres du gouvernement ?
Oui, mais j'ajoute quand même, et je réinsiste dessus, que je pense que beaucoup de candidats et certains députés LFI sont des carburants pour l'extrême droite, encore une fois. On a vu leur méthode pendant 2 ans, on a vu un certain nombre d'ambiguïtés sur des sujets majeurs, comme la lutte contre l'antisémitisme. On ne joue pas avec le feu. Donc on combat l'extrême droite quand on incarne aussi une forme d'apaisement, de solidité. Il faut des députés qui auront demain la tête sur les épaules et beaucoup de sang-froid pour construire l'avenir de la nation. On ne joue pas avec le feu.
Vous croyez une capacité de gouverner avec une majorité relative qui serait partagée avec le nouveau Front populaire et malgré les divergences que vous évoquez ?
Je crois que les députés élus auront une lourde responsabilité devant le pays. Nous allons recevoir les Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous avons une crise financière devant nous. Nous avons une situation géopolitique très difficile avec des bascules possibles. Nous avons des attentes des Français dans une société qui est très fracturée, soyons à la hauteur des événements. Donc moi, comme candidat, je prépare déjà, comme futur député, un certain état d'esprit, celui du dialogue, celui de la recherche sur quelques sujets, de possibilités d'action, de consensus. On ne sera pas d'accord sur tout, mais on le voit en Allemagne, quand il y a des coalitions, les partis ne sont pas d'accord sur tout, mais sur les sujets essentiels, ils sont capables de se mettre autour d'une table et de faire avancer le pays. C'est ça qui compte, c'est l'intérêt général qui doit guider notre action, parce que sinon, c'est quoi demain ? C'est l'extrême droite en France ou c'est le blocage institutionnel ? Nous ne voulons ni de la première situation, ni de la seconde.
Mais ces derniers mois ont plutôt montré que vous n'étiez pas d'accord sur grand-chose avec les autres partis. On ne peut pas être d'accord sur tout, je suis d'accord,
non,
c'est ce que vous dites. Comment ne pas être d'accord sur rien ?
Mais ce sont des postures politiciennes de campagne électorale.
Ça s'est vérifié dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
Mais parce que,
puisqu'on parle des élections législatives.
Parce qu'on a mis en avant des gens du Rassemblement national et certains LFistes. Bien sûr, quand on est dans la caricature, quand on est dans l'outrance, on ne peut pas s'entendre. Et d'ailleurs, ces gens-là ne participeront pas. Et heureusement, ceux qui vont participer, c'est celles et ceux qui ont l'intérêt du pays. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur une grande réforme de l'école ? Là, l'école, c'est quand même majeur, ça prépare les générations futures, c'est la nation de demain. On doit être capable de faire avancer des réformes sur l'éducation pour donner des moyens aux enfants qui ont moins de capital social et culturel de pouvoir réussir grâce à l'école, qui est le lieu de l'émancipation individuelle et de la cohésion nationale et sociale.
Mais l'école, elle n'est pas trop écornée, justement, après un mandat et demi d'Emmanuel Macron ?
Elle a été écornée depuis longtemps. Ça fait 40 ans que l'école tient comme elle peut, mais ça fait 40 ans qu'elle n'est pas suffisamment, mise en avant comme une priorité absolue. Il y a des choses qui ont été faites, par exemple, importantes depuis 7 ans. Moi, c'est une réforme que j'ai soutenue, c'est le dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire. Et ça marche très bien. Donner plus à des enfants qui ont moins de capital social et culturel au départ, en CP et en CE1, leur permettre d'apprendre à lire, écrire, compter, c'est important. Il faut poursuivre, amplifier ces réformes. Sur la défense nationale, vous n'allez pas me dire que nous avons la guerre sur le sol européen. Nous avons la guerre, l'agression de M. Poutine et de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Nous avons d'autres formes de menaces devant nous. Est-ce qu'on n'est pas capable de s'entendre pour, à l'échelle européenne comme à l'échelle nationale, avoir une vraie stratégie de politique de défense nationale entre des gens de la gauche social-démocrate et écolo, des gens de la droite et des gens de l'arc central, si on doit être capable de le faire. Est-ce qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord sur la transformation écologique, de l'évolution de nos moyens de production de consommation pour continuer à réduire notre empreinte carbone ? On peut être capable de le faire sur les questions de transport, sur les questions de logement, sur les questions de stratégie économique. La crise financière est devant nous. Est-ce qu'on n'est pas capable de se dire comment on protège les Français sur la question du pouvoir d'achat, notamment les gens qui sont les plus précaires et voir en même temps comment on peut faire des économies, peut-être sur le train de vie de l'État plutôt que sur le train de vie des Français. Voilà des choses qui peuvent être faites, et ça, il faut le préparer dès maintenant. Alors, il y a des gens qui vont vous dire « on ne le fera pas », etc. Ce sont des postures de campagne. Moi, je vous dis qu'il faut bien qu'il y ait quelques personnes issues d'une majorité ou d'une minorité, peu importe, mais qui soient capables demain de préparer les conditions d'une Assemblée nationale gouvernable dans l'intérêt du pays. Il faut que la politique redevienne le lieu de l'intérêt général et du service du pays et des Français, pas le lieu des postures politiciennes où des gens se jettent des noms d'oiseaux à la figure, ça n'aboutit à rien. Si ce n'est qu'à cliver davantage et à diviser les Français entre eux. Et ça, c'est très dangereux.
Eh bien, on a entendu votre message. Merci beaucoup. Pierre-Yves Bournazel, merci. Co-président du groupe indépendant et progressiste, conseiller de Paris, candidat Horizon de la majorité présidentielle dans la 18e circonscription de Paris.
Romain Ozoui.
Allez, 19h45 ici à Paris. Si vous nous rejoignez, je vous le rappelle, programmation spéciale sur RFI à 10 jours du premier tour des élections législatives en France. Place à présent à notre second invité. Et il est en ligne avec nous. Bonsoir Philippe Ballard.
Bonsoir.
Député sortant du Rassemblement National dans la deuxième circonscription de l'Oise, c'est au nord de Paris, candidat à un nouveau mandat. Alors aujourd'hui, Philippe Ballard, c'était le grand oral des chefs de file devant les patrons. Et pour le Rassemblement National, c'est le président du parti lui-même, Jordan Bardella, qui s'est exprimé, qui s'est déplacé. Le programme économique du RN, justement, qui suscite des interrogations. Encore aujourd'hui, le flou n'a pas été dissipé en premier lieu concernant, et c'est la première question, que je vais vous poser, la réforme des retraites, projet phare, on le rappelle, d'Emmanuel Macron, qui a donc fait passer l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Ma première question, est-ce que le RN rétablira la retraite à 62 ans, s'il parvient au pouvoir, comme il s'y était engagé? Et je précise qu'une proposition de loi avait effectivement, il y a un peu plus d'un an, été déposée.
Alors, Jordan Bardella est revenu dessus, vous le précisiez, effectivement, il était devant le MEDEF, la CPME et l'UDP ce matin. Nous avons une priorité avec Éric Ciotti et puis Marion Maréchal qui nous a rejoint. Ce sont les carrières longues, ce que l'on appelle les carrières longues, c'est-à-dire que ce soit très clair. Pour ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans, c'est-à-dire qu'ils font, dans l'immense majorité des cas, un métier extrêmement pénible, ce sera la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Voilà, c'est acté. On revient sur cette réforme des retraites qui est injuste et qui est inefficace, puisqu'un rapport du COR publié il y a quelques jours nous disait que, en fait, cette réforme coûtait de l'argent, tout simplement. Donc ensuite, ce sera le temps des réformes, ce sera le temps de... Il y aura le temps de l'urgence, avec, on en reparlera peut-être, des mesures sur la TVA, sur la sécurité, sur l'immigration. Ensuite, on va demander un audit des finances publiques, parce qu'on sait très bien, et le Haut Conseil des finances publiques a refusé de valider les comptes de la sécurité sociale, par exemple. On sait très bien qu'il y a des cadavres budgétaires dans les placards à Bercy. Après cet audit, le temps des réformes structurelles, il y aura la retraite de compris dedans, en fonction des marges de manœuvre. Eh bien, Jordan Bardella et son gouvernement d'Union nationale décideront de mettre le curseur au bon endroit.
Donc, pas de mot d'ordre général sur une retraite à 62 ans. Le Premier ministre Gabriel Attal a comparé le programme du RN à un oignon en disant chaque jour il se pèle. Effectivement, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, c'était l'étendard du parti pendant la crise inflationniste qui n'est plus considéré comme prioritaire. Comment vous réagissez à ceux qui vous disent que le programme du RN se détricote finalement au fur et à mesure que la campagne avance pour ces législatives ?
Mais cette mesure d'une TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, il est pour le temps 2, c'est-à-dire lors du budget 2025, c'est-à-dire à l'automne. C'est pas, on est au mois de juin, convenez que le mois d'octobre ou novembre, c'est pas une éternité non plus. Là, les mesures que l'on prendra concernant, que Jordan Bardella et son gouvernement prendront, et la majorité parlementaire, concernent la TVA qui passerait de 20 à 5,5% sur les produits énergétiques, c'est-à-dire le gaz, l'électricité, l'essence, le gasoil. Ce sont des produits de première nécessité. Vous vous rappeliez ma circonscription. Moi, les gens ont deux voitures obligatoires. Enfin, je veux dire, on peut pas, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de transport en commun. Donc, ce sont des produits de première nécessité. Ils disent du mois, ils sont obligés d'arbitrer. C'est ce qu'ils me disent, ils me redisent en ce moment, puisqu'on fait campagne. Ben, on arbitre entre on fait le plein du frigo ou on fait le plein du réservoir. Voilà, c'est ça la réalité. Puis il y aura des mesures sur la sécurité et l'immigration. On revient pas en arrière. Ça sera pour le mois de octobre, novembre.
Alors, justement, au chapitre économie, comment, alors que la tendance des prix d'énergie est à la hausse, comment on peut imaginer une baisse de 30 à 40% pour les ménages français? Ça figure dans le programme du RN. Et c'est ce qui fait qu'énormément de voix s'élèvent pour dénoncer un programme totalement irréaliste économiquement.
Alors, on répond, vous parliez de Gabriel Attal. On va rappeler son bilan quand même. On est à 46% de prélèvements obligatoires, 56% de dépenses publiques par rapport au PIB, c'est-à-dire on est les champions du monde, toutes catégories. Là, il y a une taxe de 10% qui est prévue pour le 1er juillet sur les prix du gaz. Ça tombe bien, c'est entre les deux tours. Je pense que ça va être une bonne initiative. C'est 3 000 milliards de dettes, 275 milliards d'euros empruntés sur les marchés financiers cette année. Il n'y a pas un pays d'Europe qui fait pire. Hein. Balance commerciale, plus de 100 milliards d'euros de déficit, et on pourrait continuer comme ça longtemps. Par exemple, le poids de la dette dans le budget, cette année, c'était 48 milliards d'euros. 2027, ça sera 80 milliards. C'est le premier poste budgétaire à l'avenir, devant l'éducation nationale, devant la dépense. Alors, ils avancent des chiffres qu'on ne peut plus farfelus, les fameux 100 milliards qui datent de la présidentielle. Là, il y a l'IFRAP, qui est un institut néolibéral, c'est le moins que l'on puisse dire, qui dit le programme du Rassemblement national tel qu'on le connaît à 7 heures, puisqu'il sera dévoilé lundi prochain par Jordan Bardella, c'est plutôt 10 milliards. Donc, on fera des économies en parallèle, tout simplement, sur notre contribution au budget de l'Union européenne, sur l'immigration, sur la fraude sociale et fiscale, et puis supprimer toutes ces agences diverses et variées qui ne servent strictement à rien.
Justement, sur l'immigration, je vais citer la suspension des allocations familiales pour les parents de mineurs délinquants récidivistes, et puis Jordan Bardella qui veut soumettre à l'Assemblée nationale d'ici la fin de l'été une loi d'urgence incluant suppression du droit du sol et création d'un fonds remplaçant l'aide médicale d'État. L'immigration, pour vous, elle est d'abord un fardeau, elle est foncièrement négative.
Elle est en partie négative et elle est en partie un fardeau. Quand on regarde les chiffres actuels, c'est 500 000 personnes hein, qui arrivent tous les ans en France. On ne compte pas évidemment les clandestins, c'est le communautarisme qui se développe, qui fait place à la sécession dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de villes. Donc oui, sous cet aspect, c'est un fardeau. L'immigration, c'est aussi de l'insécurité. Vous savez, ce sont les chiffres de la préfecture de police de Paris. On n'invente rien. 50% des mises en cause, selon la préfecture de police de Paris, et ce sont quasiment les mêmes chiffres à Lyon, d'étrangers. Il y a 25% d'étrangers dans les prisons françaises. Donc oui, sous cet aspect, c'est effectivement un fardeau pour la France, et c'est surtout un pays qui se déconstruit quand on a un tel poids à gérer.
Alors justement, puisqu'on parle d'immigration, RFI, on est une radio internationale, on observe ce qui se passe et comment justement cette possible victoire du Rassemblement national aux législatives est observée à l'étranger. Et une grande inquiétude qui est évoquée, notamment la presse européenne, qui parle de crainte quant à une paralysie de l'Union européenne. Ça vous inspire quoi?
Ah ben, ça nous inspire que, déjà, par exemple, Jordan Bardella, parmi ses premières mesures, ira à Bruxelles pour faire en sorte que la France sorte du mécanisme de fixation des prix de l'énergie. On ne sort pas du marché européen de l'énergie, on sort de ce mécanisme complètement délirant qui fait qu'on paye notre électricité à un prix auquel on ne devrait pas le payer, puisque nous avons le nucléaire et l'hydraulique qui assurent 90% de notre, si on en a la volonté, de notre consommation électrique. Et puis ensuite, il y a le Parlement européen qui est en pleine recomposition. Et puis il y a le Conseil européen où là il y a de plus en plus de pays alliés qui arrivent au pouvoir, donc ça ne sera pas la paralysie. On veut, alors là on revient aux élections européennes, hein, mais on ne veut plus de cette Europe qui nous étouffe, on veut d'une Europe de la coopération et une Europe des nations. Voilà, on a fait Ariane, on a fait Airbus, ça a très bien fonctionné, vous savez pourquoi? Bah, parce que la Commission européenne s'en est pas mêlée. Voilà, c'était une coopération de pays à pays, on peut très très bien procéder de la sorte et ça marchera sans doute beaucoup mieux.
Vous avez remis en cause la politique du gouvernement d'ordre économique il y a quelques instants. Hier, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a dit qu'il n'entendait pas remettre en cause les engagements pris par la France sur la scène internationale. Ça veut dire quoi finalement, que la politique d'Emmanuel Macron vous convient, ou est-ce que c'est une forme de politiquement correct pour tenter d'élargir votre électorat en vue des législatives?
Mais non, tout simplement. Alors, on va prendre cas par cas. On va parler de l'Ukraine, par exemple. Sur l'Ukraine, on a toujours été clair. Il y a un pays agresseur et un pays agressé. Le pays qui agresse, c'est la Russie. Et le pays qui a été agressé, c'est l'Ukraine. Donc, il faut donner tous les moyens à l'Ukraine, non seulement de se défendre. On peut, par exemple, penser au dôme de fer hein, qui existe en Israël pour faire en sorte que les missiles et les drones russes ne s'abattent pas sur les villes ukrainiennes. On peut fournir du matériel militaire à condition qu'il ne soit pas offensif. Alors, vous me direz, entre un matériel militaire défensif et offensif, des fois la frontière elle est un peu tenue. La ligne rouge rappelée par Jordan Bardella hier, c'est tout simplement ne pas déployer de militaires français au sol en Ukraine. Et puis de cette façon, en fournissant les moyens à l'Ukraine de se défendre, la Russie, fatalement un jour, pardon pour l'expression, mais va se casser les dents, c'est-à-dire va dire ça me coûte trop cher en hommes, en matériel, Allez, on va négocier la paix, parce qu'une guerre, ça se termine toujours de la même façon, par un traité, soit d'armistice ou un traité de paix. Il y a des dizaines de milliers de jeunes, mais des civils aussi, de jeunes militaires qui sont tués côté ukrainien, côté russe. C'est pas une partie de PlayStation. Il faut juste un moment prendre conscience de cela et faire en sorte que cette guerre s'arrête.
Dernière question, Philippe Ballard. Jordan Bardella a dit qu'il ne serait pas premier ministre s'il n'avait pas la majorité absolue, si le RN n'avait pas la majorité absolue. C'est quoi le pourquoi renoncer à cette fonction finalement? Le Rassemblement national est pris par un vertige du pouvoir?
Non, pas du tout, mais moi j'ai été journaliste aussi, mais j'ai été député pendant 2 ans et j'ai vu ce que ça donnait de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire tout est bloqué, vous passez le budget au 49-3 et puis après on n'avance pas. Donc on a un programme à mettre en place pour redresser le pays. On veut le mettre en place, il n'y a aucun doute là-dessus, mais si nous n'avons pas de majorité absolue, il est évident que Jordan Bardella n'ira pas à Matignon. Voilà, c'est pas plus. Donc on appelle les Français à donner à nos candidats une majorité pour pouvoir exercer le pouvoir à partir du 8 juillet.
Eh bien, verdict, voilà, j'allais dire les 30 juin et 7 juillet, premier et second tour des élections législatives anticipées en France. Merci Philippe Ballard.
Merci beaucoup.
Député sortant du Rassemblement national dans la deuxième circonscription de l'Oise, candidat à un nouveau mandat. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est ainsi que s'achève cette programmation spéciale sur Radio France Internationale, 19h bientôt, 56 minutes ici à Paris. Dans 4 minutes, ce sera Anne Corpé pour le journal de 20h, puis le décryptage où il sera encore question de politique intérieure française, et puis 20h30, Afrique Soir, la première édition évidemment, avec vous Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain.
Alors quel est le programme ce soir?
Alors nous allons parler du forum mondial pour construire un marché africain du vaccin. C'est un forum qui s'est tenu aujourd'hui à Paris, on en a parlé sur notre antenne. Plus $1 milliard ont été annoncés ce jeudi et nous verrons quels sont les enjeux pour l'Afrique. Nous parlerons du Burkina Faso, le chef de l'État Ibrahim Traoré a présidé un conseil des ministres. Il était très attendu puisqu'il s'agit de sa première prise de parole publique depuis l'attaque de Mensila. C'était le 11 juin et elle a fait au moins 100 morts dans les rangs de l'armée. Au sommaire également, la journée mondiale des réfugiés. Nous parlerons dans le dossier d'Afrique Soir de la situation des Burkinabés qui ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire avec des arrivées massives de ces Burkinabés qui fuient les violences dans leur pays. Deuxième journée de mobilisation au Kenya contre la loi des finances à Nairobi mais aussi dans une dizaine de villes du pays. Le projet de nouvelle constitution au Gabon, RFI vous dévoilera les principales mesures.
Et puis du football ce soir également, Sylvie.
Oui, l'Euro 2024 avec ce match choc entre l'Italie et l'Espagne. Coup d'envoi à 21h, les Espagnols défient le tenant du titre, un classico européen à vivre en direct et en intégralité sur RFI. Il n'y aura donc pas de deuxième édition d'Afrique Soir. Et puis en Afrique, Romain, une affaire, vous l'entendrez, qui fait grand bruit au Congo-Brazzaville. Corruption d'arbitre, malversation, trucage de match, tout est parti d'une conversation audio qui a été rendue publique sur les réseaux sociaux.
Eh bien, programme alléchant, merci beaucoup. On sera à l'écoute 20h30, heure française, Sylvie Berruet pour la première édition d'Afrique Soir. On se quitte en musique pour patienter jusqu'à 20h. Elle est dans la playlist de RFI Musique. Voici la française Clarica, manquée à quelqu'un quelque part sur Radio France Internationale.
Sur la plage de Trégastel, à Bruxelles, sur la Grand Place, sous le quai à Bonne Nouvelle, à l'hôtel du temps qui passe, manqué à quelqu'un quelque part. Dans le sanglot d'un arpège, au premier jour du printemps, sous la valse de la neige, sous la caresse du vent, manqué à quelqu'un quelque part, manqué à quelqu'un quelque part, manqué à quelqu'un quelque part. Quelque part sur le boulevard de nulle part, au fond d'une voie sans issue, quelque part au coin de la rue, sous le panneau des départs, dans la salle des pas perdus, des grands soirs aux jours sans fin, manquer à quelqu'un. Dans le cœur de mon enfant, dans chaque pli, chaque battement, dans le souvenir d'une amie, sous l'or d'une photo jaunie, manquer à quelqu'un quelque part. Dans le reflet du miroir, sous l'éclat pâle de la lune, dans la rêverie d'un soir, quand le désir se rallume, manquer à quelqu'un quelque part, manquer à quelqu'un quelque part, manquer à quelqu'un quelque part, quelque part sur le boulevard.
Voilà, manquer à quelqu'un quelque part, la française Clarica, que vous retrouvez actuellement dans la playlist de RFI Musique. Merci d'être à l'écoute de la Radio Mondiale. Il est 19h59, dans 30 secondes, c'est Anne Corpé pour le journal de 20h.